RCF. Et si pour votre retraite, vous partiez vous installer en cité HLM ? Ce voyage un peu fou, Isabelle et Pierre Chazeran ont osé le vivre pendant 5 ans. Parents et grands-parents originaires d'Aix-en-Provence, ils publient aux éditions de l'Emmanuel « Oser la rencontre », le récit de leurs 5 années passées en cité, au Mureau, à Rieux-la-Pape et à Nîmes, avec l'association Le Rocher, Oasis des Cités. Ils sont nos témoins aujourd'hui sur RCF.
Témoins quand la foi se raconte.
Bonjour Isabelle, bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et de venir nous partager votre témoignage. Vous publiez donc ce livre « Oser la rencontre ». Alors on va retracer un peu ce voyage de 5 années, un voyage en plusieurs étapes, non pas au bout du monde mais au bout de nos rues, des rues de nos cités. D'abord au Mureau dans les Yvelines, puis à Rieux près de Lyon et enfin à Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous dire à travers ces différentes étapes, nous résumer un petit peu ce que vous avez vécu dans ces différents lieux, Isabelle?
On est arrivé au Mureau dans une antenne du Rocher qui existait déjà de longue date. Donc on a été immergé tout de suite, je dirais, au cœur d'un quartier qui connaissait le Rocher, qui nous a identifié tout de suite et on s'est lancé, je dirais, très vite dans les activités que proposait le Rocher, la rencontre des habitants, etc. C'était un peu différent à Rieux et à Nîmes, puisqu'à Rieux et à Nîmes, on nous a demandé d'accompagner l'ouverture d'une antenne du Rocher, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant qu'on arrive et nous sommes arrivés pour accompagner un jeune couple qui prenait la responsabilité de l'antenne et les faire un peu bénéficier de l'expérience qu'on avait eue pendant 3 ans au Mureau.
Donc différents lieux comme ça, les Mureaux, le Rocher existaient déjà, 2 autres nouvelles antennes à Rieux et à Nîmes. Dans ces antennes, d'une manière générale, Pierre, qu'est-ce qu'il s'y vit, s'il fallait résumer en quelques phrases la mission du Rocher ?
Le mot qui résume vraiment, c'est vivre avec, c'est-à-dire que en fait, on se contente pas d'avoir quelque action dans les cités, mais on habite aussi dans la cité et de ce fait, on vit avec. Et comme on vit avec, oser la rencontre, c'est très facile. Puisque on est dans des cités où la population a une vieille tradition d'accueil, d'ouverture à l'autre, qu'on connaît plus beaucoup dans nos quartiers habituels. Et donc, pour moi, l'essentiel, c'est cette rencontre avec l'autre où l'un et l'autre, on arrive à ouvrir son cœur.
Mais ce qui demande de faire ce pas que vous avez fait, de quitter ce qu'on connaît, de quitter son confort, de quitter sa vie pour aller vivre dans ces quartiers en difficulté. Alors, je le mets sous cette appellation un petit peu large, mais à travers ces différentes villes que vous avez parcourues, est-ce qu'on peut justement tous les mettre dans le même panier ? Est-ce qu'il y a des grandes disparités au niveau des populations, de la façon dont ce qui s'y vit à travers la mission du Rocher ou globalement, il y a quand même des grandes tendances qu'on retrouve un petit peu partout.
C'est vrai qu'au Mureau, on était plutôt en Afrique noire. On était davantage à Rieux et à Nîmes au Maghreb. Mais ce qu'on y a vécu est quand même assez proche. Et parmi ce qui m'a, moi, le plus frappé, le plus touché, c'est l'accueil qu'on a reçu dès notre arrivée. C'est-à-dire qu'on est accueillis. On est accueillis quand on est arrivé à Rieux. Aussitôt, des voisins de la cage d'escalier nous ont proposé leur aide pour monter nos meubles. Quand on est arrivé à Nîmes, on a trouvé le lendemain, on est arrivé un soir, le lendemain matin, au réveil, devant notre porte, il y avait un sac de plusieurs kilos de pommes. On ne savait pas de qui ça émanait, on a su après que c'était une des voisines de l'immeuble. Et c'est cet accueil, en fait, qui m'a vraiment frappée et énormément touchée. Et qui me manque d'ailleurs aujourd'hui.
Vous dites dans votre livre, on va pas tout dévoiler, mais que vous étiez venu pour aimer et que vous avez appris à aimer ou à vous laisser aimer. C'est ce que vous gardez en disant « nous n'oublierons jamais justement toutes ces personnes qu'on a rencontrées, Pierre ».
Pour être clair, hein, moi personnellement, quand il a été question de partir en cité, franchement, je partais en cité, non pas en conquérant, mais... je vais leur apprendre ce qu'est la France, comment on vit. Donc j'étais, comment dire, dans un état d'esprit où c'est moi qui allais donner. Très rapidement, le jour même, quoi, le jour de l'arrivée, très rapidement, on se rend compte qu'on n'était pas là, qu'on n'est pas venu là pour donner, mais qu'on est venu là pour être avec. Et en fait, tout de suite, nous, on a reçu. On a reçu des témoignages étonnants auxquels on n'aurait pas pu penser avant de partir. Et ce qui fait que l'angoisse de mettre un pied dans la cité a très, très vite disparu.
Il faut juste oser faire le pas. Et en lien avec ce que vous dites, et ça revient plusieurs fois dans le livre, vous êtes repris par le responsable d'antenne des Mureaux qui vous dit « Pierre, t'as rien compris ». C'est-à-dire que dès le début, vous êtes complètement déplacé par rapport à peut-être ce que vous connaissiez ou l'idée avec laquelle vous arriviez.
C'est sûr qu'on vient avec nos codes et on n'a pas les codes de la cité. Moi, je donne toujours comme exemple ce jeune qui vient nous voir, casquette à l'envers, avachi sur sa chaise. Ouais, frère, il faut que tu m'aides. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah, faut que je trouve du travail, faut que tu m'aides à trouver du taf. Alors du coup, moi, c'est mon ancien métier qui ressort.
DRH.
Je lui explique par A plus B, le bilan de compétences, le fil rouge, les points forts, les points faibles, les axes de progrès. Et au fur et à mesure que je parlais, il s'affaissait dans sa chaise. Ouais, ça me plaît. Donc à la fin, on fixe un calendrier de travaille avec lui, on tape la main, il s'en va. Moi, j'étais très content. Et à ce moment-là, le responsable d'antenne éclate de rire. Je lui dis, pourquoi tu ris? Il me dit, là, tu es sûr que celui-là, on ne le reverra plus jamais. Et en fait, je lui ai imposé tout ce que moi, je croyais être bien pour lui, mais ce n'est pas ça qu'il attendait de moi.
Donc, on voit dès le début des déplacements. Isabelle aussi, vous dites à un moment que vous étiez, par exemple, plutôt méfiante ou sceptique vis-à-vis des militantes féministes et que vous vous retrouvez dans une manifestation contre les violences faites aux femmes.
Oui, ça, c'est vrai que ça a été un moment très fort du démarrage aux Mureaux quand on est allé faire du porte-à-porte et qu'on a été reçu par une jeune femme d'origine sénégalaise qui nous a raconté sa vie. J'avoue qu'on en est ressorti complètement bouleversé. C'était tellement fort et c'était le jour, effectivement, de la manifestation contre les violences faites aux femmes qu'elle avait elle-même subie au point de se défenestrer. Et là, je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc, je suis allée mettre mon petit ruban blanc, je crois, et je suis allée participer au débat. Et j'étais vraiment bouleversée, oui.
Est-ce que vous imaginiez pouvoir être confrontée à des situations telles que celles que vous avez vécues, que vous décrivez? On ne va pas pouvoir toutes les évoquer, bien sûr, et on encourage à lire le livre pour ça. Mais de vivre ces situations-là, en France, je disais tout à l'heure, au bout de nos rues, il y a quand même des problématiques lourdes qui reviennent comme un fil rouge aussi dans l'ouvrage, les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue, de trafics en tout genre, de violence. Vous imaginiez cette dose de misère ou ça aussi, rien que ça a été une grosse claque en arrivant?
Oui, ça a été une claque. Alors, pas dans tous les domaines, parce que je trouve qu'entre femmes, on vit aussi beaucoup de choses communes. En tant que mère, donc... parfois aussi en tant qu'épouse, même si la situation de ces femmes, la situation conjugale est quand même souvent assez différente de ce qu'on vit nous. Mais on a un terrain de connaissances, d'expériences assez commun qui fait qu'on se sent assez proche. Donc, dans certains domaines, je me suis sentie d'emblée très, très proche finalement des femmes que je rencontrais. Et dans d'autres domaines, oui, j'ai été quand même saisie par ce qu'on voyait. J'aurais jamais pensé sympathiser avec des grands jeunes à la mine patibulaire, assister au trafic pratiquement sous mes fenêtres. Enfin, ça je ne l'aurais jamais pensé, ni même imaginé.
Sur ce sujet, vous aussi, comme parent, comme grand-parent, qu'est-ce qui vous a marqué plusieurs fois? Dans le livre aussi, vous parlez des mères, justement, Isabelle, et puis, entre parenthèses, où sont les pères, Pierre, par rapport à cette situation, sur la présence ou l'absence des pères auprès de ces grands jeunes que vous décrivez? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous gardez, en fait, de ce que vous avez découvert?
Ça a été... La découverte, ça a été chez le juge pour enfants, où j'accompagnais une maman et avec son jeune de 16 ans, qui avait fait des tas de bêtises et qui allait passer devant le juge pour enfants. Et là, il y avait une dizaine de jeunes qui allaient passer en jugement et donc accompagnés de 10 mamans. Et j'ai dit à Halima, j'ai dit, mais ils sont où les papas? Alors, elle m'a dit, mais les papas, on les voit jamais ici. Et là, ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est un monde où les pères sont complètement absents. Alors, il n'y a pas qu'en cité, hein, mais véritablement en cité. Isabelle pourra en parler si on a le temps, mais la maman accapare l'enfant. Le père est un peu exclu et il intervient que pour donner une correction s'il le faut, quand il intervient. Ça, cette expérience, ça m'a bouleversé parce que non seulement il y avait que les mamans, mais beaucoup pleuraient. Et les gamins regardaient leur mère d'un air hautain et méprisant parce que eux y maîtrisaient.
La foi se raconte dans Témoins.
Et vous, d'être en couple dans la cité, justement, dans ce lien avec les parents du quartier auprès de ces jeunes, qu'est-ce que ça a changé? Souvent, le Rocher envoie des jeunes volontaires en service civique qui passent 6, 8 ou 10 mois en cité. Puis il y a aussi des couples qui viennent, parfois avec des petits-enfants. Et puis vous, un couple plus senior, parents, grands-parents, avec une expérience de vie aussi derrière. Dans votre relation avec ces parents de la cité, qu'est-ce que ça a apporté, quelque chose de nouveau aussi?
Je pense que notre présence était rassurante. C'est rassurant de voir des grands-parents. En plus, le statut des grands-mères est un statut particulier. Elles sont un peu intouchables, elles sont un peu les sages, entre guillemets, de la cité. Donc, moi, je me suis sentie tout à fait respectée. Mmh. Et je pense que de nous voir en couple est un témoignage très fort, parce qu'on ne voit quasiment jamais de couple complice dans la rue, en tout cas publiquement. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui le sont chez eux, mais ça ne se montre pas. Et donc, voir cette complicité dans la vie de tous les jours, puisqu'on était quand même très souvent ensemble, je pense que ça a pu être un témoignage fort. Enfin, je me rappelle deux femmes un peu plus jeunes que moi, une dizaine d'années moins que moi, qui toutes les deux avaient été abandonnées par leur mari reparti au bled, qui, sans se connaître, l'une était au Mureau et l'autre à Rieux, ont employé la même expression, mais terrible, pour parler de leur mari en disant « nous, c'est pas bien chez nous, parce que quand on a fini de servir, ils nous jettent à la poubelle ». C'est bouleversant. Et alors, une a ajouté, je dirais un petit peu hâtivement, parce que je pense que c'est trop général, elle a ajouté « chez nous, c'est pas comme chez vous. Chez vous, je vois bien que Pierre, il te respecte. Chez vous, les hommes, ils respectent leurs femmes ». Donc voilà, on n'avait rien fait de particulier et c'est venu comme ça. Donc je pense que voilà, le témoignage, il est là et il interpelle.
Et je me souviens d'un... Pierre. Isabelle avait organisé un camp famille et donc on invitait des familles. Et il y a trois femmes qui étaient vraiment demandeuses de venir. Et puis un jour, elles arrivent, elles disent « mais nos maris ne veulent pas ». Et bon, moi, j'étais au courant de rien. J'arrive dans le local et je dis aux femmes « alors, il paraît que vous allez en camp ». Et non, nos maris ne veulent pas. Comment ça, vos maris ne veulent pas? Ben attends, je vais aller les voir, moi, vos maris. Oh non, ça ne sert à rien, ils ne veulent pas. Alors, je leur dis, mais rebellez-vous. Alors, elles rigolent et elles disent, ben, tu sais, Pierre, déjà qu'ils nous disent, quand on vient au Rocher, que ça nous monte un peu à la tête. Alors, tu crois, on ne va pas les se battre pour ça.
Et là, on illustre bien une des vertus de cette immersion dans la cité que vous décriviez au début. C'est-à-dire que ce témoignage-là, quand on est, et ce n'est pas un jugement, mais quand on vient travailler, parce qu'on est dans le travail social, on est éducateur, on vient travailler là la journée, puis on repart chez soi le soir. En fait, on ne peut pas partager ce témoignage-là. C'est là où cette immersion, elle apporte ceci de différent, de complémentaire de tous les autres dispositifs qui existent déjà. Mmh. Isabelle ?
J'ai eu plusieurs fois des témoignages d'habitants du quartier qui m'ont dit être touchés de notre présence. Ça les touche qu'on vienne à eux et qu'on habite avec eux et que qu'on vive comme eux finalement. Mmh. Je pense que voilà, ça les touche. Ils nous voient matin et soir. On a finalement le même rythme, une vie assez proche et c'est irremplaçable.
Et comment vous leur expliquiez, on habitait à Aix, dans une belle maison, tout ça, puis on vient vivre là, vous dites ça les touche. Ils vous disaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous anime? Comment vous leur expliquiez
ça? En fait, c'est, curieusement, ils nous accueillent, mais ils ne posent pas de questions. Et ce n'est que lorsque la confiance est établie. Ça ne veut pas dire que l'accueil est factice, mais on ne se connaît pas au début. Mais au bout d'un moment, la confiance est établie et à ce moment-là, on peut rentrer et parler beaucoup plus cœur à cœur. Et c'est vrai que nous, on s'est rendu compte qu'ils tenaient à nous quand on est parti. Parce qu'au moment du départ, aucun ne l'a compris. Tu pars. Et il y a eu des larmes. Et ça veut dire qu'en fait, on était vraiment dans le paysage. Hein.
Et la foi dans tout ça, puisque je le disais en introduction, le Rocher, une association catholique d'éducation populaire, on le sait, l'univers du travail social, il est plutôt laïque, parfois même anticlérical, en tout cas méfiant vis-à-vis d'associations qui affichent un ancrage spirituel. Qu'est-ce que ça change de venir vivre une mission comme ça, animée par cette foi, avec cette casquette-là aussi, dans un environnement, il faut le dire, majoritairement musulman, Isabelle?
Je vois deux volets dans la réponse, c'est-à-dire que d'une part, pour nous, la foi et la prière en équipe, puisqu'on commence les journées avant qu'elles commencent, je dirais, entre guillemets, officiellement, par un temps de prière en équipe, elle a été déterminante pour nous aider dans la durée à rester, parce qu'il y a quand même des moments vraiment difficiles. Pour nous, ça a été vraiment un appui et un secours de pouvoir prier en équipe et de pouvoir s'appuyer sur notre foi, sur notre prière. Mais vis-à-vis du monde musulman, c'est très rassurant pour les musulmans d'avoir en face d'eux des croyants et qui n'ont pas peur de dire qu'ils le sont. Parce que c'est un monde où on n'imagine pas qu'il puisse d'ailleurs en être autrement, d'où d'ailleurs des confusions un peu gênantes parfois. Et donc, voilà, c'est rassurant pour eux de voir en face d'eux des chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne cachent pas leur foi.
Donc le fait d'affirmer une foi et de la vivre est plutôt rassurant, leur donne envie d'aimer la France, change leur regard sur la France.
Tu dis affirmer leur foi, c'est pas affirmer une foi. On a jamais, je crois pas qu'on ait affirmé notre foi. Mais par contre, on est dans un monde profondément religieux. C'est quand même le monde qui est entre autres choses à l'origine de la conversion de Charles de Foucault. Hein, ce peuple profondément religieux m'émeut. Enfin, je me souviens plus exactement de sa phrase. On est immergé au sein de personnes qui font toujours référence à Dieu.
Pour qui l'existence de Dieu est évidente.
Voilà. Moi, je me souviens d'un aide au devoir où il y avait un nouveau qui venait s'occuper de deux Maliens. On écoutait un peu éloigné, on l'écoutait, et il dit aux deux Maliens, vous êtes musulmans, c'est ça? Alors les deux Maliens lui disent oui. Et alors lui dit, parce que moi, je suis athée. Ah bon? Mais c'est quoi athée? Donc il explique. À ce moment-là, les deux sont partis d'un éclat de rire, mais alors ils avaient mal au ventre. Ils disent, mais c'est pas possible.
C'est pas possible de pas croire en Dieu.
Exactement. Mmh. Et donc ça, on est immergé là-dedans. Donc ça veut dire que on n'a pas affirmé notre foi. Ils passent leur temps à tendre la perche et à discuter de Dieu. À ce moment-là, effectivement, lorsqu'on discute de Dieu, la miséricorde, le salut, la prière, bon, on dit ce qui nous anime.
Alors cette question de la présence de l'islam dans ces quartiers-là fait souvent la une de l'actualité, nourrit beaucoup de débats. Quels sont les visages, et je mets volontairement au pluriel, quels sont les visages de l'islam que vous avez découvert? Pareil, est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans le même panier? Ou quel dialogue est-ce que vous avez pu vivre?
Ça c'est intéressant parce que non, il n'y a pas qu'un seul islam, il n'y a pas qu'un seul type de musulman, il n'y a pas qu'une seule forme de pensée religieuse.
À quelle question peut-être vous avez été confronté, et je rappelle que dès le début de votre mission, en fait, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan. Vous avez été en mission dans ces quartiers-là avec toute cette actualité française en toile de fond.
Tout à fait. Ce que je peux dire, la difficulté, c'est le problème de la communauté. C'est-à-dire que autant entre nous, on peut discuter, ne pas être d'accord, entre chrétiens, entre catholiques, on peut vraiment engager la discussion. Autant en islam, en terre d'islam, il est impossible de s'exprimer personnellement. Et donc, en fait, soit on ne s'exprime pas, soit on dit la même chose que le plus virulent. Et c'est malheureux, mais c'est le plus virulent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, d'une manière générale, ils ne connaissent pas bien leur religion. Et donc, ils ont toujours peur que quelqu'un leur sorte une sourate, j'allais dire entre guillemets, de derrière les fagots, qui les contrarierait. Et donc, ils n'osent pas. Ils n'osent pas s'exprimer, ils n'osent pas dire. Les attentats, individuellement, ils les condamnent tous, individuellement. Quand on les met ensemble, à part les femmes peut-être, à part les mamans, mais c'est vrai, c'est plus compliqué.
Vous avez utilisé le mot de terre d'islam. Vous dites dans le livre, d'ailleurs, vous écrivez « Nous sommes en terre d'islam », ce qui est quand même fort, ce qui fait réfléchir quand on lit écrit comme ça. Sur cette terre d'islam, que sont les cités où vous avez vécu? Pour vous, Isabelle, quel est le sens d'une présence chrétienne, en fait? Vivre au milieu, à l'école de Charles de Foucault, comme vous disiez, mais quelque part, avec quelle fécondité? Qu'est-ce que ça change, finalement?
Ça ne nous appartient pas de le savoir, je pense. On est là, peut-être, pour semer quelque chose par notre présence. Les fruits, je ne sais pas si on peut vraiment les déterminer. Je pense que dans la rencontre, d'abord, en tant que chrétienne, moi, j'ai trouvé libérateur de vivre dans un monde musulman. Je m'y suis sentie beaucoup plus à l'aise, finalement, que dans le monde laïque et laïcard, j'allais dire, dans lequel on vit actuellement, et où il est très difficile de témoigner de sa foi. Dans le monde musulman, on parle de Dieu très naturellement et j'ai trouvé ça vraiment libérateur. Ensuite, moi, j'ai rencontré aussi de belles personnes qui sont de vrais chercheurs de Dieu, de vrais priants. On a eu une très, très belle soirée aussi avec des soufis. On a découvert donc cette mouvance de l'islam qui est très particulière, qui est un peu plus mystique que celle qu'on connaît habituellement. Et donc, on y a fait aussi de belles rencontres. Après, moi, je me suis sentie aussi fortifiée dans ma foi chrétienne. Je me suis rendu compte au contact de l'islam, qui est une religion que je respecte tout à fait, qu'on avait une chance immense d'être chrétien, d'abord parce que on sait que le Christ est venu pour prendre sur lui nos péchés et nous sauver, et ça on le sait avec certitude, alors qu'il n'y a pas cette certitude sur le salut éternel dans l'islam, et d'autre part parce que j'ai mesuré à quel point notre religion est une religion de liberté. Je crois vraiment que le Seigneur nous veut libres. Pour moi, vraiment, ce qui m'a frappé dans l'islam, c'est que c'est une religion beaucoup de la contrainte quand même.
La foi se raconte dans Témoin.
Ça vous a permis de redécouvrir le trésor de la foi chrétienne que peut-être on oublie un peu. Est-ce que ça vous a permis aussi de relire d'une certaine façon votre histoire? Et là, je m'adresse plutôt à vous, Pierre. Vous êtes né en Tunisie. Vous avez gardé un souvenir à la fois ému et douloureux avec ce pays, avec ce passé. Là, vous avez replongé dans cet univers à grande majorité musulmane, avec des habitants originaires du Maghreb. Est-ce que vous vous êtes senti à nouveau déraciné dans votre propre pays? Est-ce que ça a vivre une douleur, ou est-ce qu'au contraire c'est une histoire qui continue de s'écrire et quelque chose aussi qui se cicatrise?
J'ai été tout naturellement à l'aise en cité avec tous nos frères musulmans, parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on est fils de Dieu et puis ne pas penser qu'on puisse être frère avec eux, même si cette fraternité n'est pas facile à vivre tous les jours. Ce que je crois, c'est qu'il y a une espèce de chemin qu'on a tous fait les uns les autres, nos amis musulmans comme moi, comme nous. Ce chemin conduit là où on va tous aller, c'est-à-dire qu'on va vers Dieu. Et ce Dieu vers qui on va, on peut le découvrir de différentes façons. Moi, j'ai eu la chance d'être baptisé, d'être dans une famille chrétienne, de conserver la foi. Ce passage en cité me l'a fait mûrir de manière extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun mal à parler avec un musulman, un non-musulman, un athée. Et que la cité a été pour nous un apprentissage de la connaissance de l'autre, du respect de l'autre et aussi de la joie de pouvoir lui parler en vérité.
Et de la joie aussi d'une espérance qui demeure malgré tout, puisque à travers tout ce que vous racontez dans votre livre, qui est savoureux de plein d'anecdotes, mais qui met aussi en avant cette réalité de la pauvreté, de trafic, de radicalisation religieuse aussi. Vous êtes interpellé de façon très forte avec des mots qui sont abrupts parfois. Vous le disiez aussi, Isabelle, parfois c'était difficile, on a envie de baisser les bras. Aujourd'hui, après ces 5 ans de voyage des Yvelines jusqu'à Nîmes en passant par Rieux, il y a une espérance en vous qui demeure pour ces quartiers-là, pour ces habitants-là, et du coup pour notre société française aussi, qui est tendue, qui se fracture, qui se fragilise.
Je pense que la nature humaine, au début, avant le péché, a été quand même créée à l'image de Dieu. Il en reste des traces chez tous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de beau en l'homme, et on a rencontré tellement de belles personnes en cité, qu'on ne peut pas ne pas espérer.
Moi, je crois que les rencontres ne sont pas vaines, même si c'est vrai, vous l'avez dit, on a souvent eu envie de baisser les bras. Et je me souviendrai toujours de ce vieux Chibani qui fait une tournée de rue et puis on tombe, il était à la terrasse d'un café. Ça va, et toi, ça va, hamdoulah, hamdoulah, et ta femme, ça va. On fait les salam alek, donc ça dure 2-3 minutes. Et au bout d'un moment, je lui dis, ah, Chibani, tu dis que ça va, mais quand je vois ta tête, ça n'a pas l'air d'aller, tu es fatigué. Et oui, il me dit, oui, je suis très fatigué, je suis vraiment très fatigué. Et puis, il lève le doigt vers le ciel et il dit, mais c'est lui qui décide. Alors, je dis, ah bon, alors tu vas bientôt aller au paradis d'Allah. Alors, il me dit, il dit, je vais t'expliquer. Alors, il me montre son bras droit, il dit, tu vois le bras droit, si tout droit, tu vas au paradis. Il dit, mais malheureusement, on a le bras gauche. Et à ce moment-là, il fait bouger son bras et il dit, et à cause du bras gauche, peut-être c'est compliqué. Alors, je lui dis, mais ça veut dire quoi? Tu vas pas aller au paradis? Voilà. Et à partir de là, on a eu une belle discussion, mais théologique. Il s'exprimait mal. Je me moque pas de lui en reprenant son accent parce que j'adore. Mais voilà. Et donc, je lui ai fait part de mon espérance à moi. Il m'a fait part des doutes sur son espérance à lui. Je dis bien des doutes parce que ils savent pas si la miséricorde de Dieu s'appliquera à leur cas particulier ou non.
Et on entend ce dialogue effectivement théologique qui se tient au coin d'une rue en bas d'une barre d'immeuble. On le disait aussi, vous êtes du coup engagé comme couple au début de votre retraite, parents, grands-parents. Comment est-ce que vous avez vécu cette position particulière, non pas là vis-à-vis de la cité, vous l'avez déjà dit, mais vis-à-vis de vos enfants, de vos petits-enfants? Comment est-ce qu'ils ont embarqué avec vous dans cette aventure?
C'était assez drôle parce que habituellement, quand de jeunes volontaires en service civique demandent à s'engager au Rocher, ce sont les parents qui sont très inquiets. inquiets et qui se font du souci. Et nous, on a vécu l'inverse, c'est-à-dire que nos enfants, bien sûr, nous ont laissé partir très volontiers en se disant qu'on était sans doute un peu fous, mais c'est eux qui se sont fait du souci et du coup, ils ont tous débarqué pour venir nous voir. Et je dois dire qu'on a vécu la première année une belle année parce que tous, à leur manière, sont venus participer un peu à ce qu'on faisait, découvrir, et ça nous a beaucoup réconfortés. Je pense que chacun en a quand même tiré parti. Mais c'est amusant parce que là, on leur a offert le livre et quand même, ils découvrent un peu ce qu'on a vécu. Je pense qu'ils ne le mesuraient pas.
Et vous, en couple, vous dites aussi, au tout début, hein, quand vous arrivez au Mureaux, vous avez l'impression d'être comme des fiancés qui s'installent dans notre premier appartement. Il va y avoir quelques travaux de peinture à reprendre.
Beaucoup.
Votre vie de couple aussi, elle a été stimulée. Vous vous êtes redécouvert, en fait, à travers cette aventure.
Oui, c'est sûr que quand on a monté l'escalier pour prendre possession de l'appartement, c'est vrai que on a eu l'impression de jeunes mariés qui arrivaient dans leur premier appartement. Ça c'est clair, ça a été clairement ressenti. Et puis ensuite, on a partagé tellement de choses extraordinaires que bon, il est vrai que le dialogue peut s'estomper dans le couple au fil des ans, mais là on était obligé de le reprendre parce que il fallait qu'on partage, qu'on dise ce qu'on avait vécu, comment on l'avait vécu, et que on se complète l'un l'autre dans l'analyse qu'on faisait. Et donc ça nous a obligé à repartir dans le, non pas le dialogue interreligieux, mais le dialogue intra-couple.
Ouais. Vous conseillez du coup, enfin en tout cas j'imagine c'est aussi l'idée de ce livre, c'est de pouvoir témoigner de ce que vous avez vécu sur tous ces plans-là qu'on a rapidement évoqués, vous en couple, en vos familles, avec les équipes du Rocher, avec les habitants des cités. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui disent, en vous entendant ou en vous lisant, bah, peut-être pourquoi pas moi ?
Alors, je les encouragerais, surtout des jeunes retraités. Là. C'est formidable comme expérience de pouvoir passer 2-3 ans ou plus ensemble dans une mission commune. C'est quelque chose, je pense, de fondateur après pour les années qui suivent. Donc oui, il faut foncer quand on se sent appelé à découvrir ce monde-là. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à tenter l'expérience.
Puis tout à l'heure, vous posiez la question de savoir quelle espérance on retire de notre séjour en cité. Moi, pour moi, je pense que... Enfin, j'évalue à peu près 50 000 cages d'escalier hein, dans toutes ces cités. Et je me dis 50 000 couples, c'est pas la mort du petit cheval, 50 000 couples. Hein. Mais 50 000 couples qui vont, par amour, et j'emploie le mot amour, même si c'est pas tout à fait un mot... politique, je l'emploie à dessein, c'est que s'ils y vont par amour, je suis sûr qu'on transforme nos cités, on les transforme. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est quand on est rentré à Aix, ben à l'inverse, on est tombé de haut parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une sociabilité en cité qu'il n'y a pas dans nos quartiers bobos ou bourgeois ou bien comme il faut.
Et on terminera par là, qu'est-ce qui va vous manquer ou qu'est-ce qui vous manque déjà et comment est-ce que vous avez envie de continuer à vivre la mission du Rocher dans cet environnement que vous retrouvez aujourd'hui ?
Moi, ce qui me manque, c'est d'abord que le monde des cités, c'est un monde où il y a beaucoup d'enfants. Donc, dans les rues, il y a des enfants. Dehors, il y a des enfants, ce qui n'est pas le cas dans nos quartiers. Et puis, c'est un monde où on se dit bonjour et où on prend le temps de temps en temps de se poser pour parler avec peut-être des inconnus ou des gens qu'on a simplement croisés une fois ou deux dans la rue. Et cette facilité de la rencontre, elle est beaucoup plus difficile dans nos quartiers. Alors, on la tente quand même.
Mais c'est vrai que nos premiers porte-à-porte en cité, je disais à Isabelle, imagine qu'on fasse ça à Aix-en-Provence. Peut-être les gens appellent la police en disant, oula, il y en a deux là, ils frappent à la porte, qu'est-ce qu'ils veulent ? Le bonjour agresse.
Et pour qu'ils n'agressent pas et redeviennent vecteurs de liens, on peut se mettre à cette école de la rencontre que vous nous partagez. Merci Isabelle et Pierre Chazeran d'être venus sur RCF nous présenter votre livre, Oser la rencontre, un récit de 5 ans de vie en cité. C'est publié aux éditions de L'Emmanuel.